Si nous sommes ici, c'est parce qu'il a permis que nous puissions être ici. Et ce qui est plus important, c'est savoir l'écouter aussi quand il veut nous parler. On peut prier, on peut demander, mais quand nous savons écouter ce Dieu qui a besoin de nous parler, c'est encore plus magnifique. Prie, dis Seigneur, parle-moi. Parle. Comme Samuel a dit, parle, car ton serviteur écoute. Parle-nous en ces instants. Élève ta voix, prie au nom de Jésus.
Tu es notre Père, merci. Merci pour ces moments, merci pour ta grâce. Merci pour ces jours nouveaux que tu nous accordes de venir devant toi. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci Seigneur parce que tu as voulu te faire connaître à nous, Éternel. C'est pourquoi tu nous as donné ta parole. Éternel Dieu, je prie que cet après-midi, que ta parole nous guérisse. Que ta parole, Éternel, nous instruise, nous corrige. Que ta parole nous transforme, nous purifie, nous sanctifie. Afin que nous devenions chaque jour semblables à toi. Seigneur, tous ces peuples en ces lieux est là pour t'entendre, toi, pour entendre ta parole. Tu as dit que la parole que je vous enseigne est esprit et vie. Laisse que quiconque est en ces lieux éternels sorte de ces lieux ayant entendu ta parole et ayant la vie en abondance dans son cœur. Je prie au Dieu de gloire que tu te glorifies au milieu de nous et que tu nous parles pour notre bien et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur pour ces jours qu'il nous accorde encore et pour ces moments merveilleux qu'il nous a permis d'avoir et qu'il nous a accordé dans sa bonté, dans sa miséricorde, d'être dans sa présence. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de l'Éternel? Waouh, gloire au Seigneur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joe Ateni. Je suis l'un de vos frères de cette paroisse. Et voilà, je crois que par la grâce de Dieu, nous serons bénis ensemble cet après-midi. Alors je nous propose une portion des Écritures. Nous sommes dans Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au 41e verset. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41, la Bible déclare « Ces jours-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle s'est remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela n'était fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Pendant quelques minutes, j'aimerais juste partager avec nous un thème que j'ai intitulé « Allons sur l'autre bord ». Alors, on va essayer de travailler ensemble. Tu vas voir ton voisin de gauche, de droite et de derrière. Et pour ceux qui ont des voisins de devant aussi, tu vas juste lui répéter cette phrase « Allons sur l'autre bord ». On y va, go. Un, de droite, regarde derrière toi parce que souvent on oublie les voisins de derrière. Et celui qui a un voisin devant, ah, on a fini déjà. Ok, on est rapide. Allons sur l'autre bord. C'est un peu le thème qu'on va partager pendant quelques minutes tous ensemble. En fait, le but de ces messages, c'est juste de nous montrer combien, quelquefois, un objectif que nous poursuivons, c'est tout un cheminement, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel ou quelque chose qu'on se décide d'atteindre et du coup, ça vient comme ça. Pas dans un claquement de doigts. Le but, en fait, c'est nous montrer que lorsqu'on veut atteindre un objectif, lorsqu'on veut passer à un autre cap, quelquefois c'est question d'un long cheminement, d'un long processus par lequel on doit passer. Et c'est dans ces processus-là qu'on sait bâtir les éléments nécessaires pour réellement atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alléluia. Allons sur l'autre bord, c'est-à-dire on est déjà à un endroit, mais l'on veut atteindre un autre endroit. Si je dois parler aux finalistes de sixième année, vous êtes en sixième, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Vous finissez un cycle, mais pour commencer un tout autre cycle qui est même plus exigeant que celui que vous venez de finir. C'est vrai, il y a toute cette joie d'abandonner le blé blanc où tu n'as même pas besoin de te présenter. On n'a qu'à te voir de loin, on sait déjà qui tu es. Désormais, tu peux t'habiller comme bon te semble. Tu peux choisir ce que tu veux porter au courant de la semaine. Mais en fait, la nouvelle vie qui va commencer, elle est plus exigeante encore que l'ancienne vie que vous veniez de déposer ou que vous veniez de mettre de côté. On est ensemble. Alors, il n'est pas juste question de célébrer le fait que nous finissons un processus, mais il est plus question de fixer le regard sur les processus qu'il y a encore devant nous. Parce que la fin d'une chose annonce très souvent le commencement d'une nouvelle chose. Bientôt, ceux qui sont en sixième, vous allez finir la sixième année, vous allez commencer ce qu'on appelle l'université, avec beaucoup d'autres réalités compliquées. Très souvent, on nous disait, on a vu des gens, il a commencé l'université chrétien, il a fini l'université païen. Donc, une conversion, mais dans l'autre sens. C'est juste pour dire que très souvent, quand on arrive dans ces mondes, on trouve des réalités qui sont vraiment compliquées et que si on ne sait pas prendre position et avoir le regard fixé sur un objectif précis, on risque de se perdre en cours de chemin. Alléluia. Et il est aussi question de savoir que dans ces objectifs, le but que nous poursuivons, en fait, c'est de réussir dans ce que nous voulons faire. N'est-ce pas? Personne ne va me dire ici qu'il va se réveiller un bon matin et se dire qu'aujourd'hui, j'ai envie d'échouer. Ou de dire que je souhaite échouer aujourd'hui. Il n'y a personne sur cette terre qui peut un jour désirer échouer de tout son cœur. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire, vraiment, mon cher, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'échouer. Bon, vous allez le prendre pour qui? N'est-ce pas qu'on a tous envie de réussir? N'est-ce pas? Pourquoi c'est comme si vous n'acceptez pas? N'est-ce pas qu'on a tous envie de réussir? Merci. C'est comme ça, vous êtes comme si vous n'avez pas envie de réussir, moi. Vous voulez me faire peur. On a tous envie de réussir, mais seulement la réussite ne nous tombe pas du ciel. Ce n'est pas que je me réveille un bon matin et du coup j'ai réussi. Non, ce n'est pas ça. Et quand on dit « allons sur l'autre bord », j'aimerais juste nous partager encore le fait que des fois pour atteindre la réussite, ou ce qu'on appelle réussite, c'est la conséquence d'un long cheminement, d'un long processus. Et dans ces processus-là, il y a des éléments que l'on doit prendre en compte. Il y a des choses que nous devons faire pour finalement atteindre ce qu'on appelle la réussite. Alléluia. Et en fait aussi, quand nous parlons de réussite, on doit se poser aussi la question de savoir réussir dans quoi ou réussir où. Parce que je vienne vous dire, non, moi je vais réussir. OK. Naturellement, la question qui va me remettre donnée, c'est réussir dans quoi? Vrai ou faux? Et on va prêcher ensemble. Vrai ou faux? Eh oui, vrai ou faux? Ah, OK, merci. Réussir dans quoi? Qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est que quelquefois, la réussite en soi n'est pas, permettez-moi le terme, n'est pas forcément le but. Mais la réussite, c'est la conséquence de la poursuite d'un but. Je vais essayer de m'expliquer un peu. C'est-à-dire que j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre, mais dans cet objectif-là, il y a quelque chose qui doit sortir, c'est ce qu'on appelle réussite. Je ne sais pas si c'est clair jusque-là. C'est-à-dire que je ne me réveille pas un matin et puis je dis non, je vais réussir. Non, je me fixe un objectif et je me dis que dans cet objectif que je réussisse et que je me fixe, je dois réussir. En d'autres termes, la réussite, c'est un peu le goût ou les sentiments qu'on a d'avoir réussi ou d'avoir atteint l'objectif qu'on s'est fixé. C'est les sentiments ou le goût que l'on ressent d'avoir finalement atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Un bon matin, tu t'es fixé un objectif disant que désormais, cette année scolaire, cette année académique ou bien dans ce travail, je dois atteindre tel niveau. Pour ce que tu dis peut-être, je dois atteindre tel pourcentage. Et du coup, quand tu vas atteindre ces pourcentages-là, ces goûts-là d'avoir atteint l'objectif que tu dois fixer, c'est ce qu'on finit par appeler réussite. C'est dans ce sens-là que je dis que quelquefois, la réussite est plutôt comme une conséquence. Et comme je l'ai dit tantôt, la réussite ne nous tombe pas du ciel. Ce n'est pas parce que tu te réveilles un bon matin, tu dis que j'ai envie de réussir dans ce que je fais, et du coup tu réussis forcément. La preuve est que plusieurs, même parmi nous, il y a eu des moments où on s'est dit que je devrais réussir dans tel domaine, mais arrivé à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas réussi comme on le pensait. Vrai ou faux? OK. Ce qui signifie que ce n'est pas parce que seulement on a décidé de dire que je dois réussir que l'on réussit. Parce qu'en réalité, quand on prend la décision de réussir, ça signifie qu'on prend la décision de faire ce qu'il faut pour atteindre cette réussite. Souvenez-vous, j'ai dit au début, c'est que pour atteindre la réussite, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des choses que l'on doit faire et des choses à ne plus faire parce que nous avons un objectif à nous fixer. Par exemple, les disciples avec Jésus, L'objectif était d'atteindre l'autre bord. Ils ont pris la barque et alors, peu importe ce qui devait arriver, même s'il y avait Pierre dedans qui était un pêcheur, même s'il voyait le poisson, il n'allait pas pêcher le poisson parce qu'ils avaient un objectif précis, c'était d'atteindre l'autre bord. Ils n'ont pas pris la barque pour aller faire la pêche, ils ont pris la barque pour traverser. Ce qui fait qu'au cours du chemin, peu importe ce qu'ils auraient pu trouver, ils devraient absolument atteindre leur objectif. Donc, première des choses que l'on devrait savoir, c'est que pour atteindre ou pour réussir réellement dans la vie, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des choses que l'on doit absolument faire et certaines choses que l'on doit absolument ne pas faire pour finalement atteindre la réussite, pour finalement atteindre l'autre bord. Mais deuxièmement aussi, dans la poursuite de cette réussite, on fera aussi face à certaines difficultés. On fera face à certaines difficultés. Ça ne sera pas rose, comme on le dit. Ça ne sera pas facile. Ça ne se passera pas toujours comme on a prévu. Quelquefois, à un moment donné, les choses seront toujours contraires à tout ce qu'on a voulu faire. On fera face à des tempêtes. Pendant que nous sommes en train de traverser l'autre bord, pendant que nous poursuivons notre objectif et que nous voulons réussir, soyez-en sûr, on fera toujours face à l'opposition. Si tu suis un chemin et que tu n'as pas d'opposition, en tout cas, je te dirais que peut-être tu t'es déjà perdu en cours de chemin. Parce que toutes les fois où on avance sur un chemin, soyez sûr, il y aura toujours un obstacle devant nous. Même si c'est quelque chose que Dieu a promis, il y aura toujours un obstacle. Ce n'est pas parce que Dieu a promis que les obstacles disparaissent de notre chemin. Les obstacles seront là. Ça sera difficile, ça ne sera pas toujours facile, mais il faut rester focalisé sur l'objectif. Alléluia. Allons sur l'autre bord. Il est important pour chacun de nous de passer sur un autre cap. Le désir de tout et chacun, et surtout particulièrement pour les finalistes, c'est que tous ceux qui sont là obtiennent leur diplôme. Mais seulement, ce n'est pas seulement parce que tu as prié et puis c'est fini. Il y a des choix qu'il faudrait faire. J'ai même envie de dire, ce n'est pas aujourd'hui que tout se décidera forcément. Peut-être pour certains, les choses se sont décidées bien avant. Mais seulement, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui et quelque chose de très important que je voudrais que l'on retienne, c'est que il faut être sérieux dans le choix que tu décides de faire. Amen. Il y a des éléments que l'on prend en compte pour atteindre une réussite, pour finalement réussir dans ce que nous faisons. Et chaque personne, chaque individu, chacun fait son choix. Bon, vous allez me permettre, vu que c'est un culte aussi qui est particulièrement dédié aux finalistes, donc je donnerai plus des exemples qui cadrent dans ce sens-là, des études et puis de l'école. Il faut être sérieux dans ce choix que nous faisons. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans cette salle d'examen, ne pensez pas que c'est tout le monde qui viendra et a bien étudié sa matière. Ne pensez pas non plus que c'est quiconque qui entrera dans cette salle qui se confiera en l'Éternel. Il y aura certains qui auront mis déjà de côté certains papiers où ils vont tricher. Il y a d'autres, je ne sais pas si ici ça s'est fait, il y a d'autres qui vont faire ce qu'on appelle acheter la salle en fait. Ils achètent les surveillants, ils leur donnent un certain montant pour qu'ils ne les surveillent pas. Au lieu de surveiller les élèves, ils commencent à surveiller plutôt le chef des centres au cas où il arrive. Comme ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dedans. Donc, et leur rôle, c'est de venir, quand les chefs des centres arrivent, vous signalez, calmez-vous, il arrive. Certains viendront avec cet objectif-là. Parce qu'ils disent que c'est sur ça que moi je compte. Et il y a aussi d'autres qui compteront sur l'Éternel. Mais quand vous décidez de compter sur Dieu, soyez sérieux. J'aimerais dire concrètement ceci. Si tu es venu ici prier, alors que tu avais déjà des plans bien établis auparavant de faire autre chose que ce que Dieu voudrait te demander, alors tu es venu perdre ton temps. Je vais être encore plus concret. Si tu es venu ici alors que dans ta tête, tu avais déjà décidé de compter sur le voisin qui sera à côté de toi pour que vous commenciez à tricher, alors permets-moi de te dire que tu es venu perdre ton temps ici. Les temps que tu passes ici, tu allais peut-être aller voir ses voisins, cet ami, pour commencer à planifier comment vous allez faire selon les matières. Parce que si vous venez rencontrer Dieu, chercher Dieu, vouloir que Dieu soit avec vous, et en même temps vous cherchez d'autres moyens ailleurs, alors vous perdez votre temps. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quiconque qui entrera qui comptera sur Dieu. Certains compteront sur d'autres moyens. D'autres moyens. Ça ne vous est jamais arrivé, tu as bien étudié, mais tu arrives à un endroit, c'est comme si tout ce que tu avais étudié disparaît dans ta tête. Il y a des gens qui font ça et il n'a pas le temps d'étudier. Il dit, bon, moi j'irai vers telle personne, il me donnera une certaine capacité pour voler l'intelligence de ceux qui ont étudié. Ça arrive. Et vous rencontrerez sûrement ces réalités. Alors, je suis juste venu vous dire que si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, alors vous risquez de pleurer. Quand vous vous dites d'être avec le Seigneur, soyez sérieux. Parce que si vous venez ici et que vous n'êtes pas sérieux avec le Seigneur, notre adversaire, lui-là, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Quand il cherche à détruire un homme, il n'a pas de temps à perdre. Il est très sérieux et il ne perd pas une minute. Et si toi, tu es juste imprudent pour une seconde, ça peut être la seconde qui détruira toute ta vie. Alléluia. Il y a des éléments, il y a des décisions à faire, à prendre. Au-delà d'étudier, au-delà de prier, il y a des éléments à faire. Il faut te décider de dire que pour ma réussite, je fais ça et je fais ceci. Nous sommes ensemble. Il y a des décisions à prendre, il y a des éléments à prendre en compte. Je vais finir par un passage vers la fin, je le lirai à la fin, mais je voudrais juste d'abord le dire ainsi. Vous savez, des fois, la réussite n'appartient pas aux plus intelligents. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent que ça déterminera forcément que tu as réussi. On va revenir sur ça à la fin. Mais ce passage à la fin dit que tout dépend des temps et des circonstances favorables ou non. Parce que quelquefois, ce qui détermine ta réussite, ce n'est pas que tu as beaucoup étudié. Quelquefois, ce sont les circonstances et ce sont des temps. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Ceci se repose sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Et nous, nous avons encore le nom de l'Éternel. Parmi les éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir, comme je l'ai dit, plusieurs ont leur choix. Chacun fait son choix et chacun se décide de ce qu'il va faire. N'est-ce pas? Mais cet après-midi ou en ce début d'après-midi, j'aimerais juste vous proposer un choix qui est très merveilleux et qui vous accompagnera tout le reste de votre vie. Parce que ce qui donne des fois le goût à la réussite, ce n'est pas forcément le fait que nous avons réussi, mais c'est la manière dont on a atteint cet objectif, la manière dont on a réussi. Vous savez, il y a des gens où, même quand on les proclame à l'école, sa conscience déjà l'acquise que toi là, tu n'as pas mérité ça. Donc, réjouis-toi, mais tu sais toi-même que ça, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et là déjà, la réussite perd aussi un certain goût. Mais quand tu sais que, vous savez, cette joie-là où tu as atteint un objectif et ta conscience est tellement joyeuse de savoir que ça, j'ai travaillé dur pour l'atteindre. Ça donne encore un meilleur goût à la réussite. Et donc, cet après-midi, j'aimerais vous proposer un choix. J'aimerais vous proposer quelque choix, quelque chose à faire de très important pour réussir. Amen. Il y a de ceux qui vont invoquer leur char, vont compter sur leur intelligence. Il y a de ceux qui vont compter sur leur palmarès scolaire. Vous savez, la sixième année, l'exéta, c'est très compliqué. Moi, je me souviens de mon grand frère, quand ils ont obtenu leurs résultats. C'est lui qui était premier de la salle, de la classe, depuis la première période jusqu'à la fin. C'est lui qui avait le petit pourcentage lors de l'exéta. Quand les résultats sont venus, c'était lui pratiquement le dernier. Bon, ils avaient tous réussi, mais le premier de la classe avait le plus petit pourcentage. Et même moi, dans ma promotion, il y avait des gens qui, bon, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des cascadeurs à l'école. Donc, lui, il réussissait par cascade. Vous savez, ce genre de personnes où quand on donne les bulletins, ils ne regardent pas les pourcentages, ils regardent si l'élève est passé, et puis il va voir le pourcentage après. Donc, cascade sur cascade. Mais le jour où l'exéta est venu, il était parmi ceux qui ont distingué dans ma salle. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, normalement, on s'attend à ce que celui qui était premier de la classe, qu'il soit aussi premier. Bon, lui n'était pas le premier, mais le fait qu'il se soit retrouvé parmi ceux qui ont distingué, tout le monde s'est posé des questions. Comment il a fait? Et donc, cet après-midi, le choix que je vous propose, ce n'est pas juste pour l'exéta, ce n'est pas juste pour ce que vous allez faire maintenant, c'est ce qui va vous accompagner pour toute votre vie. Alléluia. La première des choses, pour quiconque veut réussir continuellement dans sa vie, il doit apprendre à se retirer de la foule. Il doit apprendre à se retirer de la foule. Frères et sœurs, quand vous voulez atteindre un objectif, vous ne l'atteindrez jamais si vous êtes à tout moment dans la foule. Si toutes les fois qu'il y a une foule, vous êtes dedans. Si vous ne savez pas prendre du temps où vous restez seul, où vous vous retirez pour essayer de travailler sur vous-même ou de travailler sur certaines choses que vous voulez atteindre, vous n'atteindrez jamais l'objectif. Jésus était un homme qui marchait, c'était des foules qui le suivaient. Mais une particularité de la vie de Jésus, c'est qu'il savait toujours se retirer pour prendre du temps à être seul. Ce qui a fait que pendant 3 années, il était toujours efficace et il était toujours compétent dans son ministère. Ce qui tue des fois les gens aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours être dans la foule à tout moment. Ça ne marchera pas comme ça. Si tu veux réussir à un moment, il faut apprendre à quitter la foule. Si tu veux atteindre l'autre bord, il faut quitter la foule. Et en quittant la foule, à un moment, il faut être prêt à avancer seul. Non seulement avancer seul, mais accepter tout ce que les gens diront. Parce qu'imagine-toi, on est habitué à te voir toujours avec les gens, et du coup, tu es quelqu'un qui commence à vivre seul. Rassurez-vous, il y aura toujours des gens qui vont vous traiter de toutes sortes de noms et de qualifications. Ça fera toujours partir de votre vie. Si vous voulez réussir dans la vie et vous ne voulez pas que les gens parlent mal de vous, alors vous êtes mal barré. Mieux vous arrêter dès le départ. Il n'y a personne sur cette terre qui a atteint un objectif, qui a fait des exploits dans ce monde, qui n'a pas été mal dit, qui n'a pas été mal vu des hommes. Amen. Il faut apprendre premièrement à se retirer de la foule. Apprendre à rester seul. Apprendre à rester surtout par, si c'est un groupe très restreint. Et des personnes avec qui vous partagez les mêmes idées, vous voyez les mêmes choses. Sinon, si tu t'entoures toujours, des fois tu vas perdre de vue ton objectif. Alléluia. Parce que des fois, tu te rencontres avec des amis. Toi, tu t'es décidé d'étudier. Tu as décidé qu'aujourd'hui, de 15h à 17h, tu vas étudier. Et du coup, tu reçois un appel. Allô, tu es où? Oh, on est ici. Viens un peu, juste quelques minutes. Bon, tu regardes, il est 14h. Bon, je peux partir. Hein? Comme ça, je vais revenir avant. Dès que tu pars, c'est fini. Tu oublies que tu devrais étudier. Tu viens t'en rappeler à 20h. Tu es fatigué et tu t'endors. Déjà, tu as perdu ta journée. Il est important d'apprendre à sortir de la foule. Jésus, c'est quelqu'un qui, malgré que... Il y a un passage, je crois, dans Luc, chapitre 5, la Bible dit que sa renommée croissait de plus en plus. Il devenait de plus en plus reconnu. Mais la Bible dit qu'alors que les gens venaient vers lui pour être guéris, la Bible dit que Jésus s'est retiré seul dans la montagne pour prier. Et c'est comme ça que toutes les fois qu'il venait vers la foule, c'était toujours excellent, c'était toujours extraordinaire. Parce que ce qu'il vivait dans la foule, c'était la conséquence de ce qu'il a appris à faire dans les secrets. Quand vous voyez des personnes dont le résultat est excellent, rassurez-vous, c'est un très long travail dans les secrets. Ce n'est pas en public que vous venez bien travailler les choses. Les choses se font dans les secrets et en public, on vient jouir des résultats. Et Jésus lui-même enseigne cela quand il parle de la prière. Il dit quand vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment prier là où il y a tout le monde pour qu'on le voie. Non, mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte à clé et prie ton Père qui est dans les secrets. C'est lui qui voit dans les secrets. Te les récompensera. Et juste une parenthèse, c'est que quand nous savons faire des choses avec Dieu dans le secret, quand il nous récompense, c'est toujours en public. Quand il nous récompense, ce n'est jamais un secret. Mais il veut juste que pour travailler sur ce qu'il veut faire avec nous, que nous revenions d'abord dans les secrets. Alléluia. Première des choses, apprendre à quitter, à se séparer de la foule, apprendre à se retirer de la foule. Deuxième chose, deuxième choix, indispensable à faire si l'on veut réussir. Si l'on veut réussir continuellement dans la vie, j'avais pensé le dire à la fin, mais je commence par ça. C'est être avec Jésus en tout le temps. On est ensemble. C'est être avec Jésus en tout le temps. Je ne suis pas venu te dire de ne plus étudier. Je ne suis pas venu te dire de ne plus travailler. Mais je suis juste venu te dire ceci. Ce qui te garantira une réussite continuelle à chaque instant, c'est le fait d'avoir Christ dans ta barque. Amen. Parce que sans Christ, nous tenterons beaucoup pour atteindre la réussite. Mais avec Christ, nous marchons avec la ferme assurance de réussir toujours. J'aimerais que l'on retienne juste cette phrase, c'est que ce qui compte, c'est d'être avec Christ en tout le temps. Ce n'est pas de le chercher quand les choses vont mal, non. Mais c'est être avec lui en tout le temps. Pourquoi? Parce que quand lui est là, les problèmes viendront, trouvant déjà la solution bien installée dans ta vie. Mais si lui n'est pas là, les problèmes viendront d'abord te ravager et après tu seras en train de chercher la solution. Le fait que Christ soit avec nous à tout le temps, c'est une garantie que la solution précède toujours le problème. Quand Christ est là, il est la solution à tout. Et quand il est là, les problèmes ne précéderont jamais la solution, mais la solution précédera toujours le problème. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, avant même que le malheur ne vienne, la délivrance était déjà là, puisque le juste s'est tourné vers l'Éternel. N'est juste que celui qui a décidé de mettre toute sa confiance en l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, après que vous ayez étudié, après que vous ayez travaillé, vous ayez mis un plan bien établi en place, soyez rassurez-vous que Christ est dans la barque. Pourquoi? Parce que pendant que les disciples étaient en train d'aller sur l'autre bord, la Bible dit que la tempête s'éleva et les vents commençaient à s'agiter. Ils n'étaient pas seuls sur la barque ou sur la mer. Il y avait plusieurs autres barques avec eux. Mais ils avaient une garantie, c'est que Christ était dans la barque. De sorte que quand la tempête s'est levée, Jésus n'avait juste qu'à dire un mot et la tempête s'est tue. Alléluia. Ce qui compte, c'est d'être toujours avec lui là, à tout moment. Marcher en se rassurant qu'il est là avec moi. Parce que quand j'avance avec lui, il est même capable de me dire déjà quels sont les problèmes qui m'attendent et de me donner la solution par rapport à cela. C'est ça l'avantage que nous avons de compter toujours sur Jésus. Si nous décidons de le mettre de côté, alors nous décidons de tenter tous les jours de notre vie. Et avoir Christ dans sa barque à tout moment, c'est aussi faire ce qu'il nous dit de faire, obéir à sa voix et à son ordonnance. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à détacher la réussite avec Dieu. En tout cas, je ne vois pas détacher la réussite avec Dieu. Ainsi, la Bible dit que c'est livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que, et oui, on ne connaît pas, afin que tu aies du succès, que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, ça c'est un autre avantage, c'est que non seulement qu'il nous rassure de la solution au problème avant que nous rencontrions le problème, mais il nous rassure aussi de la réussite dans tout ce que nous entreprendrons. Dans tout ce que tu entreprends, puisque Dieu est là et que tu sais obéir à sa voix, tout ce que tu commences à faire, tu es déjà rassuré que ça réussira. En apprenant à marcher avec Dieu, il y a certains mots que l'on doit supprimer de notre dictionnaire. Il y a des mots comme échouer, comme impossible. Quand Dieu est là, rien n'est impossible. Quand Dieu est là, l'échec doit disparaître. Si nous échouons, ce n'est pas Dieu. C'est que d'une part, nous avons mis de côté Dieu. Parce que tant que lui est là, il réussira avec nous, il nous donnera toujours la réussite. Alléluia. Et la garantie avec le Seigneur, comme je l'ai dit, lorsque la tempête s'élèvera, il saura toujours les calmer. Lorsque le vent s'agitera, il saura toujours les calmer. Parce que quand il est là, quand il marche avec nous, on marche avec assurance. On marche avec assurance. Quand nous marchons avec Dieu, quand nous marchons avec Christ, je l'ai dit, c'est que nous avons la garantie de réussir à tout moment ou dans tout ce que nous faisons. Nous avons la garantie d'avoir la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Et lorsqu'on se rassure que Christ est là, c'est alors qu'on peut maintenant avancer, on peut affronter l'avenir avec assurance. C'est alors qu'on peut continuer à avancer avec une ferme assurance. Un autre avantage, c'est que Jésus dit ceci, il promet à ses disciples ceci, il dit « Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. » Il vous enseignera toutes choses. J'aimerais juste souligner que quand Dieu dit, quand Jésus dit qu'il vous enseignera toutes choses, ne pensez pas que c'est seulement quand vous lisez la Bible. Ne pensez pas que c'est seulement quand nous devons faire des choses que l'on peut qualifier de spirituelles. Même dans ce que nous appelons science, dans nos études, l'Esprit de Dieu est capable de nous enseigner toutes choses. Si c'était qu'il nous enseigne qu'à connaître ce que la Bible dit, Jésus allait le préciser, que lorsqu'il viendra, il vous enseignera à connaître la Bible. Mais il dit, il vous enseignera toutes choses. C'est ça une certaine assurance, parce qu'il est là, même quand notre intelligence est insuffisante pour essayer de comprendre, mais lui, il saura nous enseigner tout ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Et la Bible ajoute encore qu'il est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Quand il est là, il nous donne une intelligence qu'on ne sait pas comprendre d'où ça vient. Il nous donne une sagesse qu'on ne sait pas comprendre. On présente Daniel comme quelqu'un qui était 10 fois plus sage et plus intelligent que tous ceux de sa génération. Et donc Daniel était à un niveau où même tous les sages du royaume, donc quelqu'un qui, on rassemble tous ceux qui s'appellent sages de la RDC, lui il était 10 fois sage que eux tous. Dieu est capable de le faire. Mais est-ce que vous croyez qu'il est capable de le faire? Est-ce que vous êtes prêt à compter totalement sur lui pour qu'il vous accorde ce que lui seul est capable de donner? Si vous voulez réussir, rassurez-vous que vous suivez Jésus. Même dans nos études. Comme je l'ai dit quelquefois, ce n'est pas parce que nous sommes trop intelligents que nous réussissons, non. Moi, je dis des fois aux amis avec qui j'étudie, écoutez, moi, si j'ai réussi, ce n'est même pas parce que j'étudie beaucoup. Parce qu'en réalité, même des fois, je n'étudie pas. Bon, je ne conseille pas de le faire. Il m'est arrivé des fois, je ne vous conseille pas de faire ce que je vais dire. Il m'est arrivé des fois d'aller faire une interrogation. Je n'ai pas vraiment lu. Vous savez, quand on vous ramène les papiers, tu regardes ton pourcentage, tu dis ça, Ça, c'est pas moi. D'où ça vient, cette histoire? Je ne vous conseille pas de ne pas étudier. Mais c'était dû à certaines circonstances. Je n'ai pas su me concentrer comme il fallait. Mais à la fin de compte, les réussites que j'avais, je les devais à Dieu. Parce que si ça dépendait que de la façon dont je pouvais m'impliquer dans ces études-là, je pense que j'aurais échoué plusieurs fois. Je me rappelle même en sixième année, j'ai passé toute l'année scolaire. D'abord, j'étais malade. Ça avait juste commencé lors des examens du premier semestre, à l'époque vers le mois de février, juste après les vacances de Noël et bonne année. À un moment donné, j'ai commencé à avoir une maladie que je ne savais pas d'où ça venait. J'avais des vertiges à tout moment. À un moment, j'avais du mal à supporter des bruits. J'avais l'hypotension, ma tension qui baissait. Et ce qui a fait que je n'arrivais plus à réviser mes notes. Le premier jour des examens, on avait l'examen d'histoire. J'ai commencé à lire. J'arrivais pas. J'ai commencé la première page. J'avais l'impression que le monde commençait à tourner autour de moi. J'ai dû arrêter. Je suis allé dormir. Et ça fait que je pensais qu'après les examens du premier semestre, ça allait se terminer. J'ai continué comme ça durant toute l'année. J'avais des vertiges à tout moment. À un moment donné, on m'avait mis en confinement. Donc, je devais être là, seul, isolé de tous, parce que le moindre bruit me faisait mal à la tête, me donnait des vertiges. On a continué. Déjà, je réussissais. Bon, Dieu me faisait grâce. Je réussissais tout au long de l'année. Et au moment même où on devait commencer l'exéta, on s'était retiré avec certains amis pour nous préparer. Au début, c'était pas trop... Ça ne me dérangeait pas beaucoup. Mais pratiquement 2 semaines avant les exétats, ça devenait très compliqué. Je n'arrivais plus à lire quoi que ce soit. Je forçais la première semaine, mais ça me dérangeait toujours. Je me suis dit, bon, la santé vaut plus que les études. Si je vais échouer, bon, ça. Une semaine avant l'exétat, je n'avais ouvert aucun cahier. En tout cas, je vous dis aucun cahier. Juste même prendre, lire, juste que c'est les cahiers d'histoire. J'avais tout mis de côté, j'ai passé toute la semaine en train de dormir, chercher la solution à ce qui me dérangeait et tout ça. Et on est allé faire l'exéta comme ça. J'avais juste dit, Seigneur, ici là, c'est toi ou rien. Toi-même, tu sais que ce n'est pas que j'ai refusé d'étudier, mais ma santé ne m'a pas permis. J'étais prié de me guérir, bon, tu ne m'as pas guéri, donc, appa, c'est toi ou rien. On a commencé l'exéta premier jour, deuxième, troisième jour, c'est 4 jours. 3 ou 4 jours. On a fini, chacun est rentré chez lui. Les vacances ont commencé. Et Dieu a fait grâce quand les résultats sont sortis. J'avais réussi, j'avais quand même bien réussi. Dieu m'avait fait grâce, j'avais obtenu 65% à l'exéta. Et donc, c'est juste pour nous dire que, et de la même manière que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. Jamais. David dit ceci, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné par l'Éternel. Impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on sait tourner vers Dieu, notre regard, il ne nous laisse jamais confus. Mais il faut alors décider de tout son cœur de ne compter que sur Dieu. Et pendant l'exéta, toutes ces réalités, on l'a vécu. Le premier jour, déjà, il y avait une école, là, je ne sais pas, il venait d'où. Déjà, l'examen, culture générale, ils avaient d'abord moins de questions que nous. Ils avaient ces 10 questions d'histoire et géographie. Mais ils se sont décidés de rassembler l'argent et de corrompre les surveillants. Et nous autres, bon, notre école était aussi réputée des gens qui réussissaient d'abord et les surveillants, des fois, ne nous aimaient pas. Alors, à la fin, on a fait les examens. Je suis allé déposer. Un surveillant m'a dit, vous, le collégien, vous êtes orgueilleux, vous n'aimez pas donner l'argent. Il m'a dit, donne-moi quelque chose. Je l'ai juste regardé. J'ai récupéré ma carte, je suis sorti. Ces réalités étaient la main. Qu'est-ce que toi, tu décideras de faire en ces moments-là? C'est là la bonne question. On peut décider ici de dire, nous venons vers Dieu, nous prions, nous abandonnons l'exéta entre nos mains, c'est bien. Mais ce qui prouvera que tu as réellement tout abandonné entre les mains de Dieu, c'est lorsque tu seras dans la salle d'examen. Lorsque des fois tu auras l'impression, c'est comme si c'est une leçon que tu n'as pas bien étudiée à l'école, mais tu regardes là-bas. Vous savez, des fois avec des, comment on dit, choix multiples, des fois on s'assoit. Bon, je ne sais pas comment vous autres, mais à l'époque, j'étais venu, j'ai regardé une question, je ne connaissais rien. Mais j'ai dit, bon, ce genre de questions, j'ai commencé à procéder par élimination. J'ai dit, bon, partant de cette question, déjà ça ne peut pas être la réponse. Je mets de côté. Ça aussi, ça ne peut pas être la réponse. Ça non plus, bon, voyons entre les deux, quelle est la réponse. Surtout les cours qui me tuaient beaucoup et qui me faisaient... Le cours qui me dérangeait, c'était la biologie. Parce que quand le prof posait une question... Et je commençais à réfléchir, j'ai comme l'impression que c'est dans 3 parties. Des fois, tu te dis, bon, c'est ici la réponse. Quand je veux écrire, je me rappelle, attends, on avait aussi étudié ça dans tel chapitre. Je m'assois encore, je me mets à réfléchir. C'est ça ou c'est ça? Bon, après, tu t'es dit, bon, on va mettre, comme on dit à Lingala, Oekoya, Eya. Donc, ce qui va venir peut arriver, peut venir. Je n'ai pas peur et bon. Là, c'était une parenthèse. Mais en bref, tout ce que je voulais nous dire, c'est que quand on fait confiance à Dieu, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et quand il est avec nous dans la barque à tout moment, non seulement qu'il fera taire les tempêtes, non seulement qu'il calmera la mer, mais une dernière assurance, c'est qu'on finira toujours par atteindre l'autre bord. Parce qu'en réalité, dans ces passages, celui qui avait dit « allons sur l'autre bord », c'est Jésus lui-même. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, c'est de la volonté de Dieu de nous amener toujours dans une autre saison. Et dans une autre saison qui est meilleure que la précédente. Et puisque c'est sa volonté de tout son cœur, soyez sûr que quand il nous amène là-bas, il nous amènera jusqu'au bord, jusqu'à ce que nous atteindrons l'autre bord. Tant que nous n'avons pas atteint, Dieu sera toujours avec nous. Mais est-ce que nous, nous serons toujours avec lui? Est-ce que nous, nous déciderons de persévérer sur ce chemin? Est-ce que nous, nous déciderons d'avancer avec lui? Est-ce que nous, nous choisirons de tenir ferme, quand bien même ça sera difficile? Est-ce que nous, nous choisirons de rester centrés sur ce que Dieu veut que nous puissions faire? Même quand tu arrives devant la salle, tu ne sais rien. Je vais vous raconter une dernière. Un jour, ça c'était en tout cas la première et la dernière fois que j'avais fait ça. Je suis arrivé dans la salle, on avait examen, je commençais à faire juste ici, je crois en G3, quand j'étais en G3. On a posé l'examen. Je suis arrivé à un moment donné, je ne connaissais rien. En tout cas, là, même si on dit que non, tu peux avoir une idée, je n'avais aucune idée sur la question. Alors, j'ai fait le droit et on nous a appris depuis la première année que les juristes ne sèchent pas. Donc, je devais tout faire sauf laisser cette question vide. Sérieusement, ces jours-là, j'étais sorti de l'auditoire, j'ai commencé à rire. Bon, ce qui m'avait consolé, c'est que je n'étais pas le seul à le faire, mais j'avais honte. Je suis resté, j'ai dit, bon, si j'essaie de bricoler des choses, ça ne va pas marcher. C'était la première fois et la dernière fois, j'ai dit, monsieur le professeur, pour ne pas vous faire perdre du temps avec des choses qui n'ont aucun sens, j'ai commencé à expliquer au professeur, en tout cas, une question mise, si Dieu. J'ai écrit ça. J'étais sorti de l'auditoire, je dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et en sortant, j'avais même pas envie de dire ce qui s'est passé. J'ai trouvé un collègue qui avait fait la même chose. Ça m'a un peu consolé. J'ai dit, ouf, au moins, je n'étais pas le seul. Donc, le professeur ne va pas voir seulement ma copie. Mais c'était la dernière fois que j'ai dit, non, 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 ça, je ne referai plus jamais. Mais on nous avait dit, les juristes ne sèchent pas. J'aurais pu laisser vide, mais bon, les juristes ne sèchent pas. Alors, j'ai donné des explications au professeur. J'ai dit, bonne correction et merci beaucoup, cher professeur. Mais ce n'est pas que je n'avais pas l'opportunité aussi de demander aux voisins. J'en avais. J'étais entouré de personnes qui connaissaient la réponse. Et des fois, les réponses sautent comme ça au-dessus de toi. Tu as même envie de récupérer toi aussi. Des fois, ça passe devant ton banc. On te dit même, donne à l'autre. Et bon, tu regardes. Bon, tu lui donnes. C'est fait ce que vous voulez. Mais je me suis dit, alors, Seigneur, moi là, j'ai décidé de t'obéir. Donc, si je vais échouer cet examen, mieux vaut que j'échoue. Mais je pense que c'était l'année où j'avais fini aussi. Je n'avais échoué aucun cours. C'est vrai que certains points n'étaient pas si extraordinaires. Mais vous savez, des fois, on passe avec des échecs légers. Mais ces jours-là, je n'avais aucun échec léger. Bon, pas ces jours-là, cette année-là, je n'avais aucun échec léger. Tous les cours, j'avais réussi et j'avais béni le nom de Dieu. Donc, en bref, quand nous décidons de suivre Jésus, soyons sérieux. Parce que non seulement le fait que... C'est vrai, j'ai peut-être insisté sur le fait de ne pas tricher ou collaborer, mais ce n'est pas toujours ça. Je l'ai dit au début, quand vous entrerez dans la salle de l'Exeta, il y a certains qui vont recourir au monde occulte pour réussir. Et leur but, ce ne sera pas forcément de collaborer, mais leur but sera de voler ce que les autres ont étudié. Mes amis, ça existe. Pas seulement dans les films des Nigériens, ça existe. Ça existe réellement. Il y a des gens qui les font. J'ai connu des personnes, ils étaient très intelligents. Mais à l'Exeta, ils sont devenus des fous. On les a rendus fous parce qu'on a volé leur intelligence. Il est devenu fou. C'était le plus intelligent de la classe. Mais la période de l'Exeta, il est devenu fou. Parce qu'il y a un de ses collègues qui est allé voir un féticheur pour prendre son intelligence. Et si Christ n'est pas là, si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, ça peut nous arriver. Mais en lui, nous avons une sécurité. Il a vaincu toutes choses et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ce n'est qu'en lui, quand nous marchons avec lui, que nous pourrons avoir l'assurance qu'il combattra toujours pour nous et nous, nous pourrons garder le silence. Ce n'est que quand nous marchons avec lui que nous pourrons avoir l'assurance que la victoire qu'il a accomplie, qu'il a acquis à Golgotha, sera aussi nôtre. Si Jésus est monté à la croix, s'il a vaincu les dominations, les autorités, ce n'est pas pour lui. C'est pour que nous, nous soyons plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, pendant que nous serons en train d'aller sur l'autre bord, rassurez juste vous que sur le chemin, dans votre barque, Christ est là. J'avais dit qu'on va finir avec un dernier passage. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, mais surtout le verset 11 aussi. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10 et 11. La Bible dit ceci. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-les. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni connaissance ni sagesse. Écoutez le verset 11, ce que l'Ecclésiaste dit. J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. D'autres versions disent que tous dépendent des temps et des circonstances. Tous dépendent des temps et des circonstances. Raison de plus encore de marcher avec Christ est parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et quand nous marchons avec lui, il fera concourir toutes les circonstances, il fera concourir tous les temps afin que nous puissions réussir tout le jour de notre vie. Amen, amen. Alors s'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est dit aujourd'hui, maintenant, Seigneur, je veux t'avoir dans ma barque tout le jour de ma vie, alors on va s'élever, il va s'élever, on va prier ensemble. Moi déjà, je suis le premier, j'ai dit, Seigneur, moi, c'est toi avec moi. C'est qu'on dit, ton pied, mon pied, donc je ne vais pas te laisser. Partout où tu iras, moi j'irai. Alors s'il y a quelqu'un qui veut juste dire, Seigneur, je veux t'avoir dans ma barque tout le jour de ma vie, il va s'élever, on va prier ensemble. Quelqu'un qui s'est dit, Seigneur, je veux peut-être renouveler encore mon engagement de dire, je te suivrai, je marcherai avec toi tout le jour de ma vie. Je veux t'avoir à chaque instant dans ma barque. Il va aussi s'élever. C'est peut-être un engagement nouveau ou un renouvellement de vœux ou d'engagement. Mais j'aimerais juste quelqu'un qui se reconnaît dans son cœur et qui décide au plus profond de son cœur de faire ça avec Dieu. C'est alors qu'il puisse s'élever. Nous allons prier ensemble. Sans reculer. Et j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Et je décidé de suivre Jésus sans reculer. Sans reculer, et j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. J'aimerais faire un deuxième appel, juste quelqu'un, je pourrais dire quelqu'un qui sent comme si les tempêtes se sont tellement levées dans sa vie. Depuis un moment, ce ne sont que des problèmes et des problèmes. Et ça fait qu'à un moment, ta foi a commencé à vaciller. Toi-même, tu sais, tu reconnais que ta foi a refroidi parce que les tempêtes se sont levées, parce que les problèmes sont devenus tellement nombreux dans ta vie, tu as commencé à douter. J'aimerais aussi que ces personnes s'élèvent, nous allons prier ensemble. Quelqu'un qui veut dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu fasses taire les tempêtes dans ma vie. J'en ai marre de subir la même chose. Je veux maintenant que tu fasses taire toutes ces tempêtes et que le calme vienne dans ma vie. S'ils sont là, ils vont aussi s'élever. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Jésus.
Sans reculer.
Il est le seul qui sait calmer les tempêtes de nos vies. Il est le seul qui sait ordonner à la mer. Il est le seul à qui obéissent les vents et la mer. Et s'il a permis que tu sois là cet après-midi, c'est parce qu'il veut faire taire les tempêtes de ta vie. Il veut restaurer ton âme et restaurer ta foi.
Je décide de suivre Jésus sans reculer. Oh, sans reculer.
Alors pour ceux qui sont assis, on va prier. On va prier pour nos bien-aimés. On va prier pour nos bien-aimés, dire à Dieu, Seigneur, fortifie leur foi. Seigneur, agis dans leur vie. Seigneur, manifeste-toi. Pour ceux qui ont décidé de garder Jésus dans leur barque, on va prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-leur de persévérer dans cette voie. Est-ce qu'on peut lever nos voix et parler à Dieu? Juste pendant quelques secondes, parle au Seigneur. Parle au Seigneur juste pendant ces quelques secondes. Seigneur, je décide de marcher toujours vers la croix. Je décide de garder la croix devant moi et de mettre le monde derrière moi. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Viens fortifier la foi de mon frère et de ma sœur. Seigneur, je t'en supplie. Viens calmer les tempêtes, Seigneur Dieu, de nos bien-aimés qui se sont levés. Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce d'avancer avec toi sans reculer. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, fortifie la foi. Viens restaurer la foi. Viens revigorer la foi de ceux qui ont faibli en chemin. Et pour ceux qui, éternel Dieu, ont décidé de te garder dans leur barque, éternel, donne-leur de persévérer. Donne-leur l'esprit de persévérance. Ils ont besoin de toi. Alors que le monde, éternel, va le persécuter, donne-leur de persévérer. Fortifie-les à chaque instant. Marche avec eux à chaque instant. Demeure leur forteresse, leur abri. Demeure leur force à chaque instant, Jésus. Ils ont besoin de toi, éternel.
Ils ont besoin de toi, Seigneur. Prends leur cœur, leur âme, leur force, leur esprit entre tes saintes mains, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu ?